Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission du Radio Rancel qui vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets de société. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
On va commencer par l'Ukraine évidemment, on ne peut pas commencer par autre chose, d'autant qu'il se murmure que Poutine et Zelensky pourraient se rencontrer dans un proche avenir et que Poutine renoncerait finalement à envahir l'Ukraine dans sa globalité. Il est en train de se retirer notamment de Tchernobyl. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? On s'accroche au moindre espoir.
Tout ce qui peut penser qu'on va limiter les combats, les bombardements, me semble positif. Est-ce que c'est la résistance étonnante des Ukrainiens qui fait fléchir le président Poutine? Peut-être. Est-ce que c'est son pays qui commence à subir quand même les conséquences des sanctions, met la pression sur lui? Notre prière aussi. Beaucoup de gens prient pour la paix. Dans le monde entier, on prie pour la paix en Ukraine et en Russie. Donc, on demande vraiment à la Vierge Marie d'intercéder. Le pape a fait cette magnifique consécration de la Russie, de l'Ukraine, de nous-mêmes d'ailleurs et du monde entier au cœur immaculé de Marie. Donc c'est aussi une belle démarche spirituelle et dans la confiance, nous espérons vraiment avec un grand E que la Vierge Marie va intervenir, elle qui est reine de la paix. Après, il faut que les gens écoutent. Donc c'est positif si on limite les combats, mais c'est pas fini.
Ouais. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça signifie consacrer l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie, ça consiste en quoi en fait?
C'est le cœur de Marie est un cœur de mère. Hein. Jésus a dit quand il était sur le point d'agoniser sur la croix à Jean, son disciple, voici ta mère, en désignant Marie pour qu'il l'accueille de manière spirituelle. Et puis par Jean, c'était l'ensemble de l'Église, des disciples, donc nous tous, hommes et femmes, qui accueillons Marie comme notre mère. Ce cœur est large, il est prêt à recueillir toutes les épreuves, les peines des hommes, des femmes de ce temps. Donc consacrer un pays, on peut consacrer sa personne, mais consacrer un pays, c'est aussi vraiment demander au Seigneur que ce pays soit gardé, soit protégé, et que Marie soit cette mère aimante qui met un peu comme sous son voile de tendresse. On a un voile ici, le voile de Marie comme relique. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine, et ceux qui ont aussi à décider de la paix. Parce qu'il faut toucher le cœur des grands, le cœur des responsables, pour que ces cœurs se désarment et qu'ils choisissent la paix.
Ouais. Je crois que dans le troisième secret de Fatima, ou en tout cas dans les messages de Fatima, il y avait la consécration de la Russie.
Il y avait une demande de consacrer la Russie, effectivement. Ça s'est fait, plusieurs papes ont fait une démarche.
Oui.
Mais là, il y a une démarche vraiment très publique et très, très mondiale, puisque tous les évêques du monde entier étaient invités à s'y associer. Et à Chartres, on a fait une belle, très belle prière avec le même texte que le pape, un chapelet, la messe après. Ce fut très beau.
Oui. Alors, vous avez reçu dernièrement une lettre de Mgr Hilarion, qui est le bras droit du patriarche russe Kirill, Mgr Hilarion, qui est venu à Chartres le 14 février dernier, soit quelques jours avant le début du conflit.
Huit jours avant.
Un homme simple,
55 ans, et en même temps impressionnant parce qu'il est excessivement brillant. Il parle 9 langues couramment, plus les langues traditionnelles, l'hébreu, le grec, le latin. Il a écrit un nombre de livres impressionnants. Il est vraiment un homme qui analyse les choses. Alors aujourd'hui, bien sûr, il est le bras droit de patriarche Kirill, qui a pris des positions très favorables à la guerre et à la Russie, ce qui parfois, elle est justifiant, en plus théologiquement, donc il y a une sorte de déviance qui est insupportable, et que beaucoup de prêtres et de patriarches, de métropolites orthodoxes oui. D'ailleurs, tout en respectant cet homme qui est leur patriarche pour la Sainte Russie, eh bien, on dénonçait ces visions qu'avait Kirill, mais qui est très liée à Poutine. Hilarion, je n'ai pas vu de texte, mais il m'a écrit une lettre, effectivement, dans laquelle il demandait vraiment la paix. Il exprimait vraiment ce souhait de la paix et que nous prions ensemble. Et je suis heureux de le connaître parce que je prie avec lui pour cette paix. Je pense qu'il est un homme d'équilibre et de foi.
Ouais.
Et j'espère qu'un jour, il pourra aussi aider à la paix.
Alors vous venez de nous le dire, Monseigneur, le patriarcat de Moscou, en tout cas Kirill, soutient la guerre alors que dans sa grande majorité, l'orthodoxie mondiale la condamne en des termes explicites. Néanmoins, ça pose la question finalement de la séparation du spirituel et du temporel parce que finalement, il embarque l'Église orthodoxe russe dans un conflit.
Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Je ne suis pas un expert de l'orthodoxie et de la Russie, mais nous, on vit dans un régime de séparation de l'Église et de l'État. Donc, voilà, ce n'est pas le cas de la Russie. L'orthodoxie russe est donc autocéphale, donc la tête de cette Église orthodoxe est à Moscou. Elle est très liée au pouvoir russe qui s'appuie sur cette vision d'une grande Russie à l'image de l'époque des tsars ou même du soviétisme où l'empire soviétique était gigantesque. Et donc le pouvoir politique s'appuie sur cette vision passéiste, on peut dire, et orthodoxe de la Russie pour dire qu'il faut serrer les coudes et retrouver le faste, la grandeur et les territoires de cet empire. Donc forcément, il y a comme un lien qui oblige aussi Kirill à soutenir Poutine, mais il me semble qu'il n'est pas adroit et qu'il aurait pu avoir une parole beaucoup plus explicite de paix, d'incompréhension devant la guerre, même si il aurait pu dire que la Russie est orthodoxe et qu'il faut que sa grandeur soit explicite et respectée dans le monde.
Et finalement, on se dit que la laïcité à la française a du bon, même si elle est rude parfois, mais...
Elle est rude quand même. Elle est rude parce que il y a aussi, dans cette laïcité française, une lutte inconsciente, plus ou moins, contre cette mère qu'est l'Église et qui a enfanté la laïcité. Ouais. C'est la laïcité, elle s'appuie sur cette parole de Jésus, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César ». Donc Dieu, le Christ séparait déjà les pouvoirs. L'Église a permis cette laïcité et en même temps, elle se retourne un peu contre sa mère parce qu'au fond, ses fondamentaux, les fondamentaux de la culture occidentale sont chrétiens. Le respect de chacun, l'idée des petits, cette ouverture de cœur où chacun a sa place, c'est profondément chrétien.
Nous avons dépassé la mi-carême, la fête des rameaux se profile et dans votre dernier message fraternel, vous nous appelez à reprendre un bon chemin de conversion, ça passe par quoi, un bon chemin de conversion?
C'est-à-dire que quand on entre dans carême, c'est des cendres. Rappelez-vous, c'était un mercredi, il y avait ce rite des cendres qu'on reçoit sur le front comme signe de la conversion. C'était, le prêtre disait, en donnant les cendres, c'était « convertis-toi et crois à la parole de Dieu ». Cette conversion, elle est une démarche qui n'a jamais de fin. Elle est celle du cœur, d'aimer et d'enlever les scories du mal et du péché. Donc, quand on s'installe un peu dans le carême, on prend son rythme un petit peu de croisière. On fait quelques efforts, peut-être de jeûne, de service. Mais on peut perdre un peu la flamme du début qui dit « Bon, allez, cette année, je vais faire un bon carême. » Et puis, il y a des grandes causes pour lesquelles prier, comme la paix, par exemple, en Ukraine. Et donc, on est maintenant à quelques jours des rameaux, une belle fête qui ouvre la Semaine Sainte. Il est bien de se ressaisir, de se dire où en suis-je dans ma conversion, où en suis-je dans ma charité, mon partage aussi. Est-ce que j'ai partagé un peu de temps, un peu de bien, un peu d'argent aussi pour des bonnes causes. Voilà.
Vous nous invitez à la prière jaculatoire. C'est quoi
C'est un mot qui veut dire jeter. Donc c'est les prières jaculatoires dans la tradition spirituelle de l'Église, c'est des prières qu'on jette vers le ciel. Vous voyez, un peu comme vous vous promenez, un oiseau chante, vous êtes émerveillé par le chant de cet oiseau, eh bien, on peut dire « Seigneur, je te bénis pour la beauté de cette création, je te bénis pour cet oiseau qui réveille ma joie. » On peut faire une rencontre dans la rue avec quelqu'un, « Seigneur, je te rends grâce pour cette personne. » Quelqu'un qui vous partage une maladie, « Bien, Seigneur, je te demande vraiment la paix, la guérison pour telle personne que je connais. » C'est ces prières simples qui sont comme des petites étincelles de joie et de foi qu'on peut jeter vers le ciel au cours d'une journée.
Et vous évoquez aussi la prière du cœur, qui nous ramène aussi, popularisée par le pèlerin russe. C'est aussi une belle voie.
Oui, c'est un peu différent. Elle vient de cette tradition, effectivement, très orthodoxe, de répéter « Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et eux, les moines, notamment en Russie, ont l'habitude de répéter, non pas 50 fois, mais des milliers de fois chaque jour, un peu au rythme de leur respiration, cette prière qui habite leur cœur et qui les unit sans cesse au Christ présent.
Oui. Je voudrais qu'on termine cette émission en évoquant un fait divers qui m'a beaucoup choqué. 5 membres d'une même famille sont morts vendredi 24 mars après une chute depuis leur balcon. C'est à Montreux en Suisse, mais c'est une famille française. Les premiers éléments de l'enquête orientent vers un suicide collectif sur fond d'isolement social, de complotisme et de survivalisme. Or, le père était polytechnicien, il avait travaillé dans plusieurs ministères, la mère était dentiste. C'était des gens, malgré tout, cultivés, avec un haut niveau social.
Un haut niveau d'éducation, mais non, d'abord, c'est un drame affreux. C'est penser que, enfin, si cette famille a choisi ensemble, avec des enfants mineurs, de se suicider... dans quelle vision ils étaient enfermés, dans quelle prison intellectuelle. Le drame des idéologies comme celle-là, là on parle de survivalisme, je n'ai pas trop le détail de l'affaire, mais quand les gens s'enferment dans une certaine vision, se clivent par rapport aux autres, enfin se séparent des autres, pensant qu'ils ont absolument raison de penser comme ils pensent, si en plus ils sont entre guillemets intellectuellement intelligents, mais que cette intelligence s'enferme dans cette idéologie, ils deviennent des gens jusqu'au boutiste. Oui. Et dans ce jusqu'au boutiste, ils n'écoutent plus qu'eux, et parfois c'est plus la raison qui les dirige, mais c'est la folie, c'est une folie triste. Mais quelle folie d'avoir fait ça. En tout cas, c'est assurément pas ce que Dieu veut pour l'homme. Il nous veut libre, mais d'une liberté éclairée, avec un discernement. Et comment d'ailleurs être éclairé, si ce n'est en communiquant avec d'autres, en échangeant, en s'intéressant à ce que dit l'Église, à ce que disent aussi des amis, des frères. Et là, apparemment, ils étaient en fait seuls dans cette décision et dans cette vie qui a conduit à ce drame.
Ouais. Alors, au-delà de l'effroi qu'il inspire, ce fait divers concentre aussi des ingrédients qu'on rencontre un peu partout dans la société contemporaine, une forme de défiance vis-à-vis de la modernité, enfin de la société, une adhésion à des thèses conspirationnistes, et semble-t-il, dans leur cas, peut-être un mouvement évangéliste, probablement. Comment on peut lutter contre ça, quoi? Comment... On a vu que ça s'est développé, notamment pendant la crise du Covid. Hein. Vraiment, des thèses complotistes se sont...
Oui, beaucoup de thèses sont sorties, très dures pour certaines, extrêmes, avec en plus ce confinement qui a un peu enfermé les gens chez eux. Ils ont pu écouter, comme sur les réseaux, d'autres personnes qui, entre guillemets, les enferment dans un groupe qui pense pareil. Les réseaux semblent un moyen d'ouverture au monde. Mais il est dangereux, le réseau, parce qu'on fait des petits groupes sur Instagram, sur Facebook, sur différents réseaux, entre gens qui pensent pareil. Et on se coopte par la pensée. Et dès que quelqu'un pense différemment, on le rejette, voire il devient celui qu'il faut ruiner, en quelque sorte, par des propos très durs. Ça empêche parfois de réfléchir. Ouais. De réfléchir vraiment. Et Le Seigneur a mis une intelligence en nous, il donne son Esprit Saint pour discerner. Hein, le Christ dit, mon Esprit vous conduira à la vérité tout entière. Donc il ne faut pas s'écouter, il faut écouter l'Esprit de Dieu. Et le Christ dit, le Père a tant aimé le monde. Le monde, bien sûr, présente beaucoup de lieux et de choix qui nous déplaisent, qui sont difficiles, qui sont parfois contre notre propre foi. Mais il faut aller vers le monde pour le connaître, l'entendre, et du coup se faire un jugement éclairé, qui n'est pas un rejet du monde, mais qui est une position claire pour la vérité, pour la beauté, pour le bien, mais sans s'enfermer. L'enfermement, c'est une voie sans issue.
Merci beaucoup, Monseigneur. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices qu'ils pourront réécouter cette émission sur www.radiograndciel.fr. Merci à Simon Martin en régie technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Propos.